Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs de La Voix de l'Amérique. Bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le programme hebdomadaire santé de VOA Afrique présenté par Nanit Talani. On entend souvent dire que pratiquer une activité sportive régulière est bon pour la santé. Quels sont réellement les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé? C'est autour de cette question que s'articule Votre Santé, Votre Avenir de cette semaine. Pour y répondre, nous nous entretiendrons avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France.
Le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, du cœur. Il est exposé à beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement.
M. Bengali Daouda Boukar est professeur de sport à Limoges en France. Après cette interview, vous suivrez Carnet de santé avec Linor Moudou dans la deuxième partie de l'émission.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme promis, voici notre interview avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Notre interview va s'articuler sur les bienfaits de l'activité sportive. Bonjour M. Bengali.
Bonjour.
Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler des bienfaits du sport sur la santé. Quels sont les bénéfices du sport pour l'organisme humain?
Les bénéfices sont énormes. D'abord, en termes de santé, plus on fait une activité, mieux le corps se porte au niveau des renforcements musculaires, au niveau du maintien musculaire, au niveau des os, au niveau cardiaque, il y a plein de bénéfices.
Le sport procure-t-il des bienfaits sur le plan mental?
Au niveau mental aussi, on a pas mal de récupération puisque plus on fait du sport, je crois mieux le cerveau aussi travaille très bien. Et puis, il y a aussi un côté bénéfique du sport, c'est au niveau de la socialisation. Ça rapproche les gens.
Merci beaucoup. Et pour le maintien de l'organisme, quelles sont les différentes sortes de sports qui sont recommandées?
Ça dépend de l'organisme des uns et des autres. Il y a des gens qui sont destinés peut-être pour faire de sport de force. Il y en a qui font de sport d'équilibre. Il y en a qui font de sport d'endurance.
Est-ce que le sport, c'est toujours de la compétition?
D'abord, quand on parle sport, on parle compétition. Mais pour le commun de mortel, c'est le fait d'aller courir, le fait d'aller sauter un tout petit peu, le fait de faire d'autres activités. Tout cela concourt au maintien de la santé, concourt à l'amélioration de la santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on fait de moins en moins aujourd'hui en raison de la sédentarité maintenant que les gens ont acquise dans les grands centres.
Dans les villages et même dans les villes, il y a beaucoup de gens qui font des travaux manuels de façon quotidienne. Est-ce que ces personnes doivent encore pratiquer du sport de façon régulière?
Non, ces gens-là, ils font déjà une activité. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à leur faire comprendre que, bon, en dehors du travail qu'ils font, il y a autre chose qui concourt à leur santé. Parce que les gens qui sont dans les campagnes, déjà les femmes, le fait d'aller chercher de l'eau plus loin, elles marchent longtemps. Le fait de transporter des fagots, c'est aussi une activité. Le fait de cultiver, de labourer son champ, c'est aussi une activité. Donc tout ça là, ce sont des activités. Mais un certain nombre de parties du corps ont besoin d'autres choses que ce qu'on fait tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on va beaucoup plus aider ces gens-là à comprendre le fonctionnement de leur propre corps, comment aménager son corps, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le corps résiste en termes d'alimentation, mais en termes aussi d'activité. Il y a des activités qui sont totalement indépendantes de ce qu'on fait quotidiennement.
Quelles peuvent être ces différentes activités?
Le fait de marcher, le fait d'aller se baigner dans un fleuve, de nager un peu, le fait de faire de l'équitation ou le fait de faire un peu de vélo, tout ça concourt au renforcement de la santé et de la capacité de l'organisme.
Est-ce que le sport ou l'activité physique peut prolonger l'espérance de vie d'une personne?
Vous savez que ça n'a peut-être pas d'incident, mais il y a des gens qui ne font pas de sport et qui vivent longtemps, et il y a des gens qui font du sport et qui meurent sur le terrain. Donc tout cela est fonction vraiment de l'organisme des uns et des autres et de la gestion. Si on connaît bien son organisme, si on gère bien son organisme, peut-être que l'espérance de vie se prolongerait. Il y a des gens qui ne font pas de sport du tout, mais qui vivent le plus longtemps possible.
Comment peut-on expliquer le fait que certaines personnes pratiquent du sport, meurent vite, alors que d'autres ne pratiquent pas du sport, mais vivent longtemps?
C'est parce qu'ils ont un organisme qui s'adapte plus facilement à toutes les activités et qui n'a pas besoin d'être forcément aidé par autre chose. Mais il y a ceux qui font du sport aussi. Entre ceux-là, c'est le contrôle quotidien, hein, c'est le contrôle sans arrêt. Parce que s'ils ne le font pas, évidemment, tout d'un coup, ils se rendront. Parce qu'on a vu des sportifs sur le terrain s'effondrer. Parce qu'on n'a jamais, en amont, fait attention à leur organisme. Donc, le fait de faire du sport, dans un sens, peut-être que ça prolongerait la vie, mais dans l'autre, il faut faire attention.
Donc, suivant les cas, le sport peut ou ne pas jouer sur l'espérance de vie des gens?
Dans le sens où ça prolongerait la vie, je dirais simplement pour nos parents qui sont dans les campagnes. Vous savez, il y a longtemps, les gens ils mouraient simplement parce que on dit qu'ils ont la maladie ou ils avaient du mal à uriner. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la prostate et ça, chez tous les hommes, ça existe. Maintenant, si on sait que ça existe et que voilà, par le fait de faire des activités, évidemment, on court moins de risques à faire en sorte que la prostate, là, se développe très vite. Donc, il y a des choses qu'il faut maintenant arriver à faire comprendre aux gens qui sont aussi dans la campagne, que voilà, il y a des choses qui peuvent améliorer leur vie et prolonger la vie.
Les personnes qui souffrent, par exemple, des maladies cardiaques, est-ce qu'elles peuvent s'adonner sans danger à une activité physique régulière?
Non. Il y a toujours un danger. Mais les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, d'abord, elles doivent être sous contrôle médical. Et c'est à partir de médecins qui diront, bon, voilà, tel sport, c'est mieux de le faire, ça comporte moins de risques, mais ça améliore également la santé. Mais on ne fait pas n'importe quel sport. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, il ne va pas se mettre tout de suite à faire un sport où il faut qu'il aille très vite, il faut qu'il mette à rude épreuve son cœur. C'est une question d'adaptation. Ça, c'est les médecins qui le contrôlent, ça.
Les personnes âgées, quelles sont les activités sportives ou les activités physiques qui peuvent leur être recommandées?
Beaucoup plus de marche. Les personnes âgées, aujourd'hui, avec l'urbanisme, maintenant les gens marchent peu. Et plus on grandit, plus on est âgé, plus on prend un peu aussi du poids. Et si on ne fait pas d'activité pour éliminer tout ça, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne fait pas attention à son sommeil, tout ça, évidemment, c'est assez compliqué. Mais je crois que tout médecin conseillera à l'avance, il faut marcher.
En rapport avec la marche, on a un auditeur qui s'appelle Daniel Lass, il est de la RDC. Il pose la question suivante. Si j'évite l'obésité et que je marche une distance de 12 km 3 fois par semaine, est-ce que cela peut être la solution ou cet exercice pourrait encore avoir de répercussions sur ma santé?
Déjà, marcher 3 fois par semaine, c'est déjà très bien. Maintenant, ce n'est pas seulement marcher qui suffit. Il y a marcher, mais il y a également la régulation de ce qu'on mange. Parce que ça ne sert à rien si on doit marcher 12 km et puis après, une fois au repos, on se goinfre et puis on mange des McDo. Donc c'est une question de surveillance de son alimentation et de l'activité. On fait l'activité parce qu'on veut perdre des kilos, mais si une fois qu'on a fini l'activité, on doit aller se charger, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut lier l'alimentation avec l'activité qu'on fait.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
On a un autre auditeur, Alphonse Mbouaki, toujours de la RDC, qui veut savoir si les exercices corporels peuvent éloigner la vieillesse précoce.
Ah, la vieillesse précoce. Oh, tout le monde a peur de vieillir.
Eh oui.
Mais bon, déjà, le fait d'être régulièrement en activité, c'est un plus. Hein. On est à l'abri de pas mal de maladies, on est à l'abri de pas mal de maux de ceci, de maux de cela. Quelqu'un qui fait régulièrement d'activité, il dort bien et puis en plus, il mange bien. S'il n'a pas de maladie, s'il n'a pas de problème de santé, évidemment, sauf accident de circulation. Autrement dit, il n'y a pas de raison que la vie ne se prolonge pas.
Et les enfants peuvent-ils aussi faire du sport ou doivent-ils faire aussi du sport?
Les enfants, c'est d'abord le jeu. Les enfants jouent. C'est beaucoup plus sous forme ludique qu'il faut intéresser les gens à toutes les activités. Il faut qu'ils touchent un peu à tout. Ils sortent, ils courent. Au niveau des enfants, on n'est pas dans la recherche de la compétition. On est dans la recherche de jeu. Ça permet un meilleur développement. Et puis ensuite, le fait de jouer avec les uns et les autres, ça leur permet d'avoir une certaine autonomie, une certaine personnalité. C'est bon si on peut les amener à le faire régulièrement. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça dépend de leur âge. Ça dépend de pas mal de choses. Mais on fait attention. Mais déjà, à l'école, ils doivent le faire, leur sport.
Pour un sport de maintien, juste pour maintenir l'organisme, quelle est la meilleure activité physique? Est-ce que c'est celle que l'on peut pratiquer individuellement ou celle que l'on pratique collectivement ou en groupe?
Bon, il y a des gens qui se mettent en groupe parce que ça les motive, et tant mieux. Si le fait de se mettre en groupe, c'est motivant, ça leur permet de faire. Mais il y a aussi des gens qui, bon, aujourd'hui, j'ai pas un partenaire pour aller courir, mais je vais tout seul, je vais pas m'arrêter. C'est pas parce que j'ai pas de partenaire que je cours plus, mais je me lève et puis je vais courir, je vais marcher, voilà. Donc, dans les deux cas, c'est toujours bénéfique, hein.
Pour terminer notre interview, que peut-on faire pour inspirer les personnes qui ont du mal à bouger ou qui hésitent à faire de l'activité physique?
Malheureusement, mais il faut leur faire peur un peu. Parce que le fait de ne rien faire, il faut arriver à les convaincre du bienfait du sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arriver à leur faire comprendre que le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui mange simplement, qui prend du poids, s'il ne bouge pas, évidemment, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, ça devient plus compliqué au niveau du cœur. Donc, il est exposé. Quelqu'un qui ne fait pas d'activité a beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement.
Merci beaucoup, Monsieur Bengali, d'avoir répondu à nos questions.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
C'était notre entretien avec Monsieur Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges, en France.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
Cette semaine dans Carnet de Santé, infection, champignons, démangeaison, un regard sur le pied d'athlète. Comment se manifeste le pied d'athlète et quel est son traitement? Plus d'informations depuis Kinshasa. Et quelques conseils pour se débarrasser des odeurs de pied gênantes. Ensuite, une pilule pour traiter le Covid-19 montre des résultats prometteurs. Enfin, la tendance des cristaux de guérison a refait surface. Leur efficacité est-elle vraiment prouvée? C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Selon les experts, nos pieds sont toujours en contact avec des champignons et des bactéries qui causent des infections. L'une de ces infections est le pied d'athlète ou tinea pedis, une infection fongique de la peau qui commence généralement entre les orteils. Selon la Mayo Clinic, basée ici aux États-Unis, le pied d'athlète se développe souvent lorsque les pieds d'une personne transpirent dans des chaussures. La transpiration des pieds crée un milieu idéal à la prolifération des champignons, humide, chaud et sombre. Tinea pedis est contagieuse et peut se transmettre sur le sol ainsi que par des serviettes ou des vêtements contaminés. L'infection affecte environ 15% des personnes dans le monde. Qui est le plus susceptible de développer le pied d'athlète et quels sont les traitements disponibles? Allons à Kinshasa pour en savoir davantage avec Alex Kati Kataï et Ezekias Mlopo.
Cela fait plus de 30 jours que ce jeune que nous appelons David est souffrant. Il est condamné à ne mettre que des sandales et des tongs. Ses pieds sont infectés. Cette situation le met mal à l'aise parce qu'il ne peut pas vaquer librement à ses occupations. Il se plaint des douleurs atroces aux pieds.
Cela fera bientôt 2 mois que je suis dans cet état. J'ai le pied d'athlète. Cette infection que je ne connaissais pas avant. Je sentais des picotements entre les orteils, mais je négligeais. C'est après 2 semaines que je suis allé voir un médecin parce que je commençais à avoir de petites plaies et je me grattais beaucoup.
Le pied d'athlète est une infection de type mycosique qui commence généralement entre les orteils. Contrairement à son nom, elle ne concerne pas que les sportifs. Toute personne adulte peut l'attraper. Une situation qui est rare chez les enfants selon les spécialistes.
Les pieds d'athlète, c'est une maladie qui attaque, qui se localise souvent au niveau des orteils. Au niveau des orteils du pied, et surtout entre le 3e et le 4e orteil. Mais qui peut aussi se localiser au niveau de la plante des pieds et au niveau du dos des pieds. C'est un peu ça la maladie. C'est une maladie qui attaque souvent les jeunes, les personnes adultes, dans la tranche d'âge compris entre 20 et 50 ans. Mais c'est rare chez les jeunes enfants. C'est une maladie qui est due à des microbes qu'on appelle souvent des champignons.
Le pied d'athlète est contagieux. C'est seulement après contact direct avec les champignons trichophytons ou épidermophytons qu'on peut attraper cette infection. Elle peut se transmettre d'une personne à une autre au sol, dans les endroits humides, même les piscines où les gens marchent pieds nus. Il existe un traitement pour lutter contre cette maladie.
Pour la soigner, nous avons d'abord ce que nous appelons le traitement local. Le traitement local, nous avons ce qu'on appelle des médicaments antifongiques, donc anti-champignons. Ces médicaments-là, on les applique au niveau local, au niveau de la plante des pieds. Et ce sont des antifongiques qu'on applique sous forme de solutions, sous forme de gel, sous forme de poudre, qu'on applique au niveau des lésions pour guérir, pour lutter contre ces champignons, afin de guérir contre cette maladie-là.
Le pied d'athlète peut entraîner des infections graves du pied ou de la jambe. Cela s'avère particulièrement inquiétant chez les diabétiques et les personnes atteintes des maladies vasculaires chroniques. Une bonne hygiène, avoir les pieds secs, éviter de marcher pieds nus, ne pas mettre les chaussures qui serrent, aide à prévenir l'apparition de cette infection. Ezekias Moulopou pour VOA Afrique, Kinshasa.
Le docteur Andrew Foy est dermatologue à l'hôpital Aga Khan et à l'hôpital national Muhimbili à Dar es Salaam en Tanzanie. Ils nous ont dit plus sur le pied d'athlète et la prise en charge de cette condition.
Parmi les infections fongiques superficielles, plusieurs types d'organismes peuvent en être la cause. Nous avons la quantité de dermatophytes, de moisissures, de levures. Tout cela peut provoquer une infection fongique. Et les dermatophytes sont ceux qui causent le pied d'athlète. Selon l'environnement où vous travaillez et ce que vous faites, vous pouvez contacter ces organismes. Ils sont partout. Vous pouvez attraper des champignons partout. Le pied d'athlète est quelque chose de très mauvais, surtout s'il n'est pas bien traité. Cela peut devenir une infection bactérienne secondaire, car elle se situe entre les orteils. Vous avez des lacérations entre les orteils, la peau est irritée. Et ces plaies sont les portes d'entrée pour d'autres micro-organismes, d'autres types de champignons, mais aussi des bactéries et des virus. Vous avez un risque de développer ce qu'on appelle la cellulite. La cellulite est une forme grave d'infection bactérienne qui se produit dans la partie inférieure de la jambe, impliquant principalement les tissus mous, et la personne peut avoir une fièvre élevée, une rougeur du membre, des cloques, des ulcérations, et parfois finir par avoir un pied gangrené qui pourrait se terminer par l'amputation et la perte du membre. C'est donc vraiment quelque chose qui doit être immédiatement soigné et traité correctement. Et des médicaments sont disponibles. Nous avons des médicaments tropicaux ainsi que des médicaments systémiques par voie orale. Ceux-ci sont facilement disponibles. Vous pouvez aller voir un médecin ou même un généraliste pour vous le faire prescrire. Si vous avez une infection bactérienne, vous devez également ajouter des antibiotiques prophylactiques. Pour ceux qui ont le pied d'athlète chronique récurrent, ce que nous appelons ténéa pédis chronique, et ceux qui ont des comorbidités comme le diabète, le VIH. Pour les personnes âgées, il est conseillé de continuer l'utilisation prophylactique de l'antifongique tropical 2 à 3 fois par semaine. Alors assurez-vous d'améliorer votre hygiène et ne portez pas de chaussures très serrées. Dans des zones comme Dar es Salaam ou Tonga, Zanzibar, les zones côtières où l'humidité est élevée, il fait généralement chaud et humide. Cela crée un très bon environnement pour que le soleil se développe et donc le rendre plus chronique, car on passe du temps à le traiter, puis parfois au bout de 2 ou 3 mois, il revient.
Souffrez-vous d'odeurs de pieds gênantes? Si la réponse est oui, eh bien, vous n'êtes pas seul. L'Institut pour la santé préventive des pieds, IPFH, affirme que les mauvaises odeurs de pieds, aussi appelées bromodoses, sont très courantes. Elles découlent d'une accumulation de sueur et de bactéries sur la peau. Les infections fongiques, comme le pied d'athlète, peuvent également entraîner une bromodose. Des pieds qui sentent mauvais ne sont peut-être pas quelque chose de grave, mais ils n'en demeurent pas moins un problème gênant. Pour prévenir ou traiter la bromodose, les experts recommandent entre autres d'éviter de porter la même paire de chaussures plus de 2 jours de suite pour leur permettre de sécher, porter des chaussettes propres et changez-les tous les jours. Baignez vos pieds tous les jours dans de l'eau tiède avec un savon doux antibactérien et séchez-les soigneusement, surtout entre les orteils. Selon les experts, trempez vos pieds dans du vinaigre et de l'eau ou utilisez de la poudre pour les pieds ou des antitranspirants peut aider à réduire les odeurs de pieds. Une nouvelle pilule fabriquée par Pfizer donne des résultats prometteurs dans le traitement du COVID-19 après qu'un essai clinique sur 1200 personnes a montré qu'elle réduisait de 89% le risque d'hospitalisation chez les adultes atteints de la maladie. Plus de détails dans ce reportage relaté par Blanche Sanou.
Alors que la pandémie de COVID-19 sévit toujours et que les taux de vaccination en Afrique restent faibles, de nouveaux traitements contre le virus comme le médicament Paxlovid de Pfizer peuvent aider à sauver des vies et réduire le taux d'hospitalisation.
C'est encourageant de voir ce projet se concrétiser, à la fois à cause des 89% de réussite et de son efficacité. Pour être plus explicite, nous parlons d'une réduction de 89% des hospitalisations et des décès pour les personnes avec les symptômes du COVID. En même temps, c'est un gros problème parce que ce sont des pilules faciles à prendre. Cela signifie donc que les gens peuvent avoir ces pilules dans leur boîte à pharmacie et s'ils découvrent qu'ils ont les symptômes de COVID ou qu'ils sont positifs, ils peuvent commencer à prendre les pilules et ne plus chercher à aller à l'hôpital.
Voici un aperçu du fonctionnement de ce nouveau traitement.
Le médicament agit de manière à empêcher la reproduction des protéines du virus. Ce processus de blocage aide à dénaturer les protéines ou les particules virales du coronavirus. Donc, ce procédé fait que le virus n'a plus la force de s'implanter et à la longue, le virus meurt.
Paxlovid est administré avec un autre antiviral. Les patients infectés par le COVID-19 prennent 3 comprimés 2 fois par jour. Jusqu'à présent, les experts ne savent pas si la pilule protège contre le COVID sur une longue période. Ils conseillent toujours aux gens de se faire vacciner pour éviter d'être infectés.
Au cours des dernières années, la tendance des cristaux de guérison a refait surface dans l'industrie du bien-être, même si cette méthode n'a pas été scientifiquement prouvée pour son efficacité. Karina Bafrazian raconte, le récit est signé d'Illidico.
Becky Waddell est la propriétaire de la boutique Take Care, un magasin qui vend des cosmétiques et des produits de spa à Washington, D.C. Elle dit que pendant longtemps, son amour pour les pierres semi-précieuses n'était qu'un passe-temps, puis un jour, elle a réalisé que les cristaux sont devenus une partie intégrante de l'industrie de la beauté.
Au bout d'un moment, quelques clients m'ont dit « Oh, ce serait bien d'avoir des cristaux ici ». Et je me suis dit « Ok, bonne idée, tout le monde semble les aimer ».
Les cristaux ont longtemps été en marge de l'industrie du bien-être, mais le secteur a été stimulé par la pandémie. Becky Waddell dit qu'elle s'efforce de répondre à la demande, car l'intérêt pour la thérapie par le cristal ne cesse de croître. Comme leurs supposées caractéristiques médicinales, les prix des cristaux de guérison varient beaucoup, allant de 20 à 5 000 $.
Pour les clients typiques de Washington, D.C., le stress est tellement élevé, ils travaillent à domicile, leurs maisons sont probablement petites et ils doivent désormais tout faire dans cet espace. Du coup, beaucoup de gens aiment avoir un bout de cristal sur leur bureau.
Les célébrités ont également donné un coup de pouce à l'industrie du cristal. Le mannequin Naomi Campbell dit qu'elle a toujours des cristaux dans son sac. La chanteuse Adele a mentionné une fois que sa performance quelque peu imparfaite au Grammy s'expliquait par le fait qu'elle avait perdu son cristal porte-bonheur. Et l'actrice Gwyneth Paltrow vend des cristaux de guérison sur son site web. Mais les médecins sont sceptiques et disent qu'il n'y a aucune preuve que les cristaux aident réellement.
Il n'y a aucune preuve scientifique pour montrer que les cristaux de guérison peuvent aider de quelque manière que ce soit à traiter des maladies. Mais je pense qu'il y a quand même une place pour les croyances des gens, car elles peuvent augmenter leur optimisme et par conséquent, leur santé mentale. En améliorant votre santé mentale, vous augmentez votre résilience et votre degré de bonheur en général, ce qui vous permet de renforcer votre système immunitaire. Alors, est-ce que cela vient des cristaux de guérison? Non. Cela peut venir de tellement de choses différentes dans notre vie, comme passer du temps avec nos proches ou faire du sport.
L'industrie des cristaux touche aussi à des problèmes politiques et éthiques. Bien que l'extraction des cristaux de guérison se fasse dans environ un quart des États américains, la plupart sont importés. Un certain nombre de gisements se trouvent en Afghanistan, un pays où aucune mesure de sécurité n'est mise en place pour ceux qui extraient ces pierres semi-précieuses. Selon Global Witness, une organisation de défense des droits humains, chaque année, l'Afghanistan reçoit environ 20 millions de dollars de la vente de malachite bleue, une pierre semi-précieuse. Bien que certains collectionneurs hésitent à acheter des cristaux produits en Afghanistan, les experts et les vendeurs pensent que la demande ne devrait pas baisser de si tôt en raison de la pandémie de COVID-19.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.
Ainsi que s'achève le magazine Votre Santé, Votre Avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire s'articulait autour de l'importance de l'activité physique sur la santé. Nous nous sommes entretenus avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Lénor Moudou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierrot. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne.